Chronique Livre avec Anne-Marie Aubin. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Hélène.
Anne-Marie, vous avez lu « Celles qui ne savent pas mourir », un titre intriguant. Aux éditions Tête Première, c'est écrit par Marie-Hélène Sarrazin. C'est un roman.
C'est un roman qui termine une trilogie à saveur rurale qui avait commencé avec 12 arpents. Puis le deuxième, c'était
Ce qui nous dévore.
Et celui-là, c'est un qui est très bien réussi, qui ferme un petit peu cette histoire. Alors, il faut savoir que Marie-Hélène Sarrazin, c'est une autrice qui a vécu dans la Naudière, qui réside maintenant à Québec, puis qui a longtemps enseigné au cégep la littérature. Donc, on le sent dans la lecture que c'est une grande lectrice. Et puis donc, maintenant, elle travaille en bibliothèque. Donc, elle n'est pas loin de la littérature. Elle a d'abord écrit de la poésie. Ça aussi, ça se sent dans l'écriture, dans les images qu'elle présente, les références littéraires aussi. Et si le 12 arpents débutait avec l'histoire d'une fille qui s'appelle Marine, qui a deux enfants, qui est monoparentale, qui hérite de sa grand-mère d'une terre avec une maison dans un village qui s'appelle Saint-Didas, qui existe vraiment dans la Naudière, ben là, ça se poursuit dans celui-là. Parce que le premier était finalement une adaptation de comment on part de la ville pour aller vivre à la campagne. Puis ça a été publié en 23 et ça me faisait penser beaucoup aux gens qui ont tout quitté pendant la pandémie, croyant que tout serait tellement plus facile en région.
Ah oui.
Dans ce qui nous dévore, ben il y avait toute l'influence du potager puis du jardin. Puis dans celui-là, ben c'est un roman qui est beaucoup axé sur le réalisme magique, la légende, les fantômes, tout ce qui habite l'esprit dans les forêts, dans cette région de la Naudière. C'est plusieurs petits chapitres qui se livrent très rapidement, qui sont regroupés en trois grandes parties. Le premier, c'est la disparition, parce qu'il y a un personnage important qui n'est plus là. L'esprit de la forêt, ben, c'est toute la magie. Et la cloche de verre, c'est comme l'étouffement qui va se passer dans un moment bien précis de l'histoire. Ça se lit tout seul, c'est léger, c'est agréable. Il y a question de la vie de village, de la sororité, de la solidarité des femmes, l'intergénérationnel, la transmission et toutes les légendes et la magie qui habitent ce livre-là. C'est clair que cette fille a entendu ou vu ou lu Fred Pellerin. Il y a beaucoup de points communs avec certains personnages et c'est pas un reproche que je lui fais. Non, c'est un compliment parce qu'elle a su mettre de la magie dans un texte qui aborde quand même des problématiques contemporaines. Alors, comment tout débute? C'est que dans l'histoire, il y a deux maisons sur le rang Bélan, dans ce village-là, qui se font face depuis des générations. La première maison appartenait à Rose Nollet, qui l'a léguée à Sarah. Et Rose Nollet, c'est un personnage qui a décidé qu'elle prenait racine dans son jardin. Donc, elle traverse les saisons, puis elle est là vivante, c'est assez impossible, là, mais c'est en même temps très drôle. Et de l'autre côté de la rue vivait Achille Corriveau, qui elle était comme la sorcière du village parce qu'elle avait plein de plantes et puis dont elle connaissait des potions qui lui étaient personnelles. Et
Achille est une femme?
Oui, c'est une femme, ah. Achille Corriveau. Et les deux font référence, évidemment, Rose Nollet à Rose la Tulipe et Achille Corriveau à la Corriveau qui avait empoisonné les hommes qu'elle avait dans sa vie. Donc, c'est pas par hasard. Et dans le grenier de cette maison-là, ben, il y a plein de potions puis de poux avec des herbes et tout ça. Donc, Marine vit là. Et en face, il y a Sarah. Et puis, Marine a deux enfants. Le père est disparu, travaille en au Mexique. Bon. Et les deux, sont amis et s'entraident dans tout ça. Et un jour, ben, la fameuse femme qui était dans son jardin, qui avait pris racine, va disparaître, d'où le début de l'intrigue de l'histoire, comment ça se fait, puis où est-ce qu'elle est, etc. Dans ce village-là, il y a aussi des personnages qui sont très drôles. Les sœurs d'Aou, c'est trois vieilles filles qui tricotent, puis qui véhiculent toutes sortes de rumeurs. Et elles ont sur la galerie un moulin qui fait semer les rumeurs à tout vent. C'est très drôle, on imagine la chose.
Et pour ça fait penser ici à les trois sœurs là, qui tricotent dans l'œuvre de Tremblay. Là, la grosse femme d'à côté est enceinte, je crois.
Puis on peut penser aux fées aussi, parce qu'il y a toujours les trois fées, là, le trio Fata. Mm-hmm. Bref, il y a des références multiples. Et puis elles font penser aussi à des commères qui racontent toutes sortes de choses. Mais les autres, elles ont un sixième sens et elles devinent, elles entendent les rumeurs avant tout le monde. Puis, il y a un maire qui est odieux. Lui, il s'appelle M. Roy. Puis, lui, il a des idées de grandeur. Il a vendu l'église pour faire des condos locatifs. Il veut faire des chalets dans la montagne. Donc, il déboise. Puis, quand il déboise, ben, ce qui se passe, c'est que tous les cervidés, les chevreuils, tout ça, n'ayant plus de végétation, s'en vont manger ce qu'il y a dans les potagers puis dans les jardins plus bas. Ce qui fait un problème. Puis là, il veut transformer la rue principale. Il veut créer des chalets dans la montagne. Il y a des grands, grands projets qui vont évidemment connaître beaucoup d'opposition, comme dans toutes les municipalités aussi. Puis, bon, il y a une auberge dans ce village-là. Et Blanche, sans regret, elle a 103 ans. Alors ça, ça me fait penser au personnage plus grand que nature qu'on voit dans les contes. Puis là, elle sent qu'elle vieillit. Il faudrait bien qu'elle lègue ça. Puis aussi, elle s'est tirée aux cartes. Donc, elle veut pas que. Elle apprend qu'il arrive là un investisseur qui veut peut-être acheter son auberge. Alors, elle se dépêche de trouver quelqu'un en qui elle a confiance.
Un héritier ou une héritière.
Oui, c'est ça. Alors, c'est une femme qui s'appelle Suzanne qui va finalement hériter de tout ça. Puis, il arrive deux personnages nouveaux dans le village. Francis Paradis, qui fait bien sûr référence à François Paradis dans Maria Chapdelaine. Il arrive de Sainte-Julienne, un village voisin. Sa blonde l'a quitté, il a tout perdu, mais il a décidé que lui, il allait se refaire. Et là, à un moment donné, on dit, dans l'auberge en question, où il va manger quelque chose, les survenants inspirent toujours la méfiance. Bon, fait que lui, il arrive d'ailleurs, puis on ne sait pas trop c'est qui. Puis c'est comme ça dans les villages aussi, quand il arrive des nouveaux, on se méfie de ces gens-là.
L'étrange, oui.
Un étranger, voilà.
On dit l'étrange souvent, au lieu de dire étranger.
Elle est, oui, c'est ça, elle est une fille qui fait de la poterie, elle s'appelle Anaïs, puis elle vit dans un campeur. Puis on apprend qu'elle a poussé son chum Alex dans une chute et il est mort, en quelque sorte. Puis elle,
en quelque sorte.
C'est terrible, hein? Puis on fait croire à un suicide. Bon, on comprend plus tard qu'elle était victime de violence, puis qu'elle s'est défendue. Mais bref, elle se rue dans ce village-là et puis elle dit qu'elle se souvient qu'une cliente lui avait dit que les blessés et les criminels y allaient pour s'isoler du monde, se refaire une vie paisible dans le creux des vallons. Donc, finalement, en pensant qu'elle va être inaperçue là-dedans, c'est pas vrai du tout parce qu'au contraire, comme c'est un petit village qui n'a pas 1000 habitants, ben quand il arrive un nouveau, on le repère tout de suite. Donc, ce sont des personnages très attachants, tous très gentils, mais qui tiennent de la légende. Et c'est pour ça, peut-être, qu'on fait référence au titre « Celles qui ne savent pas mourir ».
Oui, je me demandais, ça venait d'où, ça?
Puis, il y a ça, mais il y a aussi une référence au roman de Louis Aymon, Maria Chapdelaine, qui est partout dans le livre, et qui avait dit « Nous sommes d'une race qui ne sait pas mourir », en parlant de la résilience de ce peuple-là dans Maria Chapdelaine. Et donc, il y a ça, puis il y a les êtres légendes et les fantômes qui hantent tout ce village-là, qui font que ces gens-là ne meurent pas. Au contraire, ils habitent les lieux, ils influencent les gens. Ils leur apparaissent à certains moments. Donc, ça, c'est très intriguant aussi. Puis, il y a des personnages réels qui sont inscrits dans l'histoire, comme Michel Sarrazin, qui est un médecin qui est venu de France et puis qui a amené ici différentes plantes.
Sarrazin, tiens.
Oui, puis comme son nom à elle, c'est ça. Alors, elle s'en est servie. Puis, entre autres, parmi les plantes dont il est question dans le grenier de la maison d'Achille Corriveau, ben il y a la Saracénie pourpre, et puis il y a aussi question des daturas. Ce sont des plantes qui sont poisons, là, qu'il ne faut vraiment pas consommer. Alors, on comprend qu'ils ne sont pas là par hasard et qu'il y en a qui vont en consommer. Et il y en a qui vont s'empoisonner, bien sûr. Et d'où la référence aux sorcières, aux sages-femmes, aux herboristes. Et il y a dans cette solidarité féminine quelque chose d'intéressant dans la transmission du savoir. Par exemple, celle qui s'appelle Rose a fait un herbier de toutes ces plantes-là parce qu'elle, elle a connu, sa mère a connu Michel Sarrazin. Et puis bon, elle va transmettre ça aussi à la jeune génération. Il y a parfois des notes d'humour parce que les sœurs d'Aou sont un petit peu folles, si on peut dire, là, dans leur tricotage et leur rumeur, mais en même temps, elles sont des anciennes sages-femmes. Puis à un moment donné, par une circonstance de tempête de verglas qui n'a aucun sens, là, tout est dans le domaine du conte, les gens se retrouvent à l'auberge pour rendre ce qu'on appelle veiller au corps de Blanche, de 103 ans, qui est décédée. Puis survient une tempête de verglas, subitement, qui va couvrir l'auberge comme une cloche de verre et qui fait que personne ne peut sortir de là. Ça, c'est très intéressant. Ça me faisait penser à la fiancée américaine qui se passait une nuit de Noël de tempête de neige. Je pense que c'était à Rivière-du-Loup ou Rimouski, je ne sais pas trop. Et c'était très drôle, la scène, parce que les gens étaient comme prisonniers. Bien là, c'est la même chose qui se passe.
Ah oui, la fiancée américaine d'Éric Dupont. Hein?
Oui, puis la scène de Noël est vraiment, vraiment très drôle. Puis ça se passe comme ça, d'une manière exagérée, bien sûr. Bon, ben là, ils sont dans une espèce de globe de verre et ça va prendre beaucoup de temps avant qu'ils puissent sortir. Il faut que ça fonde, tout ça. Et là, quelqu'un accouche. Et à ce moment-là, ça y est, le travail commence. Alors, les trois sœurs d'Aou, qui sont un peu sorcières, ont déjà été sages-femmes et vont prendre en main cet accouchement-là parce qu'elles savent comment faire. On voit qu'elles ne sont pas du tout stressées par ça. Ça fait partie
c'est leur métier.
De la vie qui se passait en campagne autrefois. Alors donc, parfois, elles sont, on peut les juger comme sévèrement parce qu'elles sont dans le commérage, mais d'autres fois, elles savent être utiles et transmettre leurs connaissances et leur savoir-faire. Donc, il y a celle-là qui ajoute de la légèreté parfois au récit parce qu'il y a des drames quand même dans cette histoire-là. Et on apprécie beaucoup les références à la littérature, aux contes du Québec, aux légendes. Il y a des jeux de mots, des images. Puis on balance tout le temps entre le réel, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est là-bas, le surtourisme, par exemple, les ambitions démesurées du maire. Ça ressemble à plusieurs villages. Mais en même temps, on retourne dans une espèce de passé légendaire avec des personnages plus grands que nature et des croyances aussi associées au cercle des sorcières, par exemple, à toutes sortes de choses comme ça. Et puis, ben, dans tout ça, il y a un message qui est l'occupation du territoire, la préservation du patrimoine bâti, la solidarité féminine.
Mais c'est super. Alors, vous nous en avez bien parlé, très chère Anne-Marie. On pourrait dire qu'elle est la sœur de Fred Pellerin, la sœur littéraire, cette Marie-Hélène Sarrazin.
Il y a quelque chose de commun, oui.
Merci beaucoup, et puis on se retrouve la semaine prochaine.
Dans deux semaines, j'ai congé.
OK, bien bon congé, à dans
au
deux
revoir.
Semaines.